de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Je suis en compagnie de Yves Gourina, professeur des universités en physique et structure et organiste. Et à ce sujet, il veut nous exposer ce qu'il pense de la liturgie et du rôle de l'orgue dans la liturgie. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine, merci de m'accueillir.
Donc nous allons nous exprimer sur le rôle de l'orgue dans la liturgie, notamment dans le silence, puis le rôle de l'improvisation dans la liturgie et aussi la place des compositeurs dans la liturgie. Alors tout d'abord, vous êtes organiste. Quand on joue de l'orgue lors des célébrations, que faites-vous ? Est-ce que parfois vous avez des moments de silence ? Est-ce que vous improvisez ? Comment vous voyez la place de l'orgue dans ces moments de prière ?
Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que quand je joue de l'orgue, alors surtout dans les célébrations, mais si j'osais, je dirais aussi pendant les concerts, je prie. La musique d'orgue est une prière. Alors, peut-être plus encore que les autres musiques, mais je voudrais quand même revenir sur la notion d'art sacré, parce que c'est au cœur du débat. Pour moi, et je ne suis pas le seul à le penser, art sacré, c'est un pléonasme. Quand on revient aux origines, alors prenons exprès un art qui n'est pas musical. Prenons la peinture. Comment la peinture est-elle née ? Elle est née quand Homo sapiens sapiens s'est aperçu par sa conscience que beaucoup de choses lui échappent, que beaucoup de choses sont mystérieuses. Je pense à l'au-delà, je pense à tout ce qu'on ne comprend pas. L'amour aussi. Et il a eu besoin, cet Homo sapiens, de traduire, de réfléchir au sens propre cette quête d'autre chose. Et il a commencé à le projeter au sens propre comme au sens figuré sur les parois des grottes et des cavernes. C'est devenu la peinture. Voilà. Bien, la musique, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, André Manoukian dit que peut-être qu'Homo sapiens sapiens, avant de parler, a commencé par chanter. Et ce n'est pas du tout impossible. André Manoukian n'est pas n'importe qui comme musicien. Avec son complice Jean-François Zigel, ils font des émissions extraordinaires. Et donc, oui, il est possible que le chant soit consubstantiel à l'être humain, comme l'art, comme le sacré. Et donc, je voudrais dire que tout art, quelque part, a quelque chose de sacré, parce que dans sa naissance, premièrement. Alors, pour l'orgue, c'est encore plus vrai, de par la nature de l'instrument qui est mystérieux, qui prolonge finalement le corps humain, parce qu'on joue de l'orgue avec tout son corps. Si j'osais, je n'oserais pas, mais je dirais avec toute son âme aussi. D'ailleurs, il y a une âme dans le violon également. Hein. Mais si vous voulez, l'orgue a ça de particulier, qu'on le pilote dans un voyage mystique assez extraordinaire. Donc dans une célébration, effectivement, on prie avec l'assemblée, on prie dans l'assemblée. Et puis il y a une autre caractéristique de l'orgue qui est unique. À mon avis, l'assemblée est dans l'instrument. Je m'explique. Un facteur d'orgue qui fait bien son métier calcule l'instrument pour qu'il soit en pleine harmonie avec le bâtiment. C'est-à-dire que le buffet de l'orgue, effectivement, c'est un système qui guide le son, mais le son est fait pour s'épanouir dans une nef, dans un lieu particulier. D'ailleurs, c'est pourquoi quand on déménage un instrument, il faut qu'un facteur d'orgue s'en occupe pour l'adapter au nouvel environnement. Voilà, sinon c'est une catastrophe. Et donc, en réalité, on est à l'intérieur de l'instrument. D'ailleurs, c'est unique dans l'histoire de la facture d'instrument. Je vous mets au défi de vous mettre à l'intérieur d'un violon. Ce sera compliqué, même dans une contrebasse, c'est quand même compliqué au niveau géométrique. Là, vous êtes dans l'instrument. Donc, on prie avec l'assemblée, effectivement. Alors après, vous parlez du silence. Alors, il faut absolument respecter le silence, bien sûr, quand il y a le silence. Mais on peut aussi habiter le silence par des jeux extrêmement doux, par des improvisations qui traduisent en temps réel la méditation du texte qu'on vient d'entendre ou de la prière de l'assemblée. Oui, vraiment. Et il ne faut pas trop le répéter, hein, mais on est entre nous. Pendant les concerts, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on joue un prélude et fugue de Bach, qui est soi-disant de la musique profane, moi ça me fait bien rigoler. Parce que les préludes et fugues de Bach, il y a des psaumes derrière. Pierre Vidal, d'ailleurs, professeur au conservatoire de Strasbourg, le regretté Pierre Vidal, avait réussi à trouver des correspondances entre les psaumes et les préludes et fugues de Bach. Donc en réalité, derrière toute cette musique, il y a de la prière. Donc derrière chaque note, il y a un petit bonjour au bon Dieu.
Du coup, les mots servent pas forcément à nourrir cet espace que vous voulez démontrer à travers l'orgue.
C'est au-delà des mots. Vous savez, les mots sont faits pour le message et pas les messages pour les mots. C'est-à-dire, les mots, en fait, sont des vecteurs qui... les notes, c'est pareil, si vous voulez. Alors, si j'osais, là aussi, Pierre Vidal le disait, tout se passe, en fait, entre les notes. Et j'irais même plus loin. Alors là, c'est un petit peu osé, ce que je vais vous dire. Il ne faut pas non plus le répéter, ça reste entre nous. Quelqu'un disait une fois, dans Mozart, même le silence, c'est du Mozart. Et je crois que c'est pas faux. Donc il faut respecter également le silence. Et de ce point de vue-là, l'orgue est extraordinaire. Parce qu'une des caractéristiques de l'orgue aussi, c'est la durée. C'est-à-dire que c'est Flore Peters qui l'explique très bien dans sa méthode d'orgue. C'est un instrument dans lequel toute l'expression est donnée par la gestion du temps. Et en particulier des silences. Rien n'est pire que les jeux pâteux où les organistes commencent la note suivante avant d'avoir terminé la précédente. Et là, il y a une espèce de bouillie qui est... Voilà. Donc il faut, pour la clarté du message, il faut absolument avoir cette gestion du temps qui est tout à fait importante.
Il y a aussi une relation entre l'orgue et la liturgie. Quand on est organiste, on doit savoir quand même comment se passe une célébration, mais oui. Pas que. Là, on est à l'époque du Christ roi. Il y a quand même des textes. Est-ce que, par exemple, on a des jeux d'orgue qui sont en relation avec, effectivement, les timbres de l'orgue? Et cet espace entre la tribune et la parole de l'Évangile, comment traitez cela, dans votre propre tribune?
Alors, il faut d'abord écouter. La première chose, c'est qu'il faut écouter la parole. Et ensuite, faire résonner cette parole à travers ces timbres si riches que nous donne le facteur d'or. Alors, vous me posez la question sur la fête du Christ roi. La fête du Christ roi, évidemment, on pourrait croire de manière explicite que c'est le grand plein jeu, le grand plénum, voilà, sa majesté. C'est pas Louis XIV. Il ne vous a pas échappé que sa royauté n'est pas de ce monde. Et donc, on peut très bien illustrer le Christ roi sur un bourdon de huit qui nous murmure. Oui, je suis doux et humble de cœur. Et sa royauté, justement, elle est dans la douceur. Donc, c'est très inattendu, mais le choix des jeux, le choix des accords, le choix des contrepoints contribue à méditer le texte en profondeur. J'en profite pour dire, puisque j'anticipe, j'imagine ce que vous allez me demander, parce que je sens que derrière votre question, il y a autre chose. Tout ça doit se faire en résonance avec la prière de l'Assemblée. J'imagine que c'était ça qui était derrière la question. Et dans la prière de l'Assemblée, pour s'y fondre, car l'organisme véritablement doit se fondre dans la prière de l'Assemblée, je suis navré de le dire, mais il faut avoir fait des études d'harmonie au plus haut niveau. Et oui, on ne se satisfait pas de la médiocrité de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'être, j'allais dire, un guide chant. Vous savez, le guide chant, c'est tout simplement j'appuie sur mon accordéon, note par note, et je vais suivre. En fait, on ne peut pas suivre la mélodie. On doit quelque part s'intégrer, se nicher. Je n'arrive pas à trouver le terme, j'oserais presque dire, c'est un mot qui est si joli, se lever dans la musique, si vous voulez, pour arriver à véritablement s'intégrer dans la prière. Et pour ça... Alors, le plus grand maître, évidemment, pour ça, c'est Bach. Il faut travailler tous les chorales de Bach, des passions et des cantates. C'est extrêmement intéressant. Il utilise l'harmonie, en faisant parfois, d'ailleurs, des licences par rapport aux règles du 19e siècle, car il y a eu des traités d'harmonie au 19e siècle, extrêmement stricts, etc., etc. Mais vous savez, Bach et Mozart, oui, j'assume ce que je dis. Je vous vois qui souriez, mais j'assume ce que je dis. Quand je commence, j'enseigne bien modestement l'harmonie, quand je commence mon cours, je montre deux, trois exemples de fautes et j'explique aux élèves, vous voyez, c'est des tout petits musiciens qui ont écrit ça, je ne vous donnerai pas les prénoms, il y en a un qui se prénomme Wolfgang Amadeus et l'autre qui se prénomme Johann Sebastian. Et il y a effectivement des moments où l'harmonie, si vous voulez, est au service. Donc, par exemple, l'accord de septième diminué a une puissance évocatrice terrible. Et puis, il y a des accords comme l'accord de septième majeur, etc., qui, au contraire, ont une sérénité absolument, absolument extraordinaire. J'en profite pour dire que ce sont des choses qu'on utilise aussi quand on commente des films en musique. Alors, il m'est arrivé à la cathédrale de Castres, donc sur l'instrument dont je suis l'organiste titulaire, de faire venir un film muet qui s'appelle Le Kid de Chaplin. qui est un film qui a été réalisé il y a un peu plus d'un siècle, en noir et blanc, muet, qui est un hymne à l'amour, en fin de compte, parce que c'est une histoire d'un enfant abandonné. Et j'ai trouvé un certain nombre d'accords pour illustrer les sentiments, qu'ils soient tragiques ou qu'ils soient au contraire extraordinairement heureux quand les choses se passent bien. Et alors, juste, on avait eu cette idée avec une amie qui fait de la batterie, car il ne vous a pas échappé quand même que l'orgue, aussi universel soit-il, est un instrument à vent. Ça, je crois que c'est indéniable. Il lui manque un peu les percussions. Donc on avait invité une amie qui faisait de la batterie, qui soulignait les accords de quelques petits coups de batterie, de cymbales, très très doux, très très doux. Honnêtement, les gens étaient très très émus, et moi le premier. Donc la liturgie, si vous voulez, c'est de se fondre dans le kit de Chaplin.
Parfois, jouez-vous des chorales lors des célébrations?
Bien sûr, évidemment. La question ne se pose même pas, mais si, justement, elle se pose, mais naturellement. Et en fonction du texte qui est lu. Si vous voulez, alors, ce que Bach a expliqué à ses élèves, c'est qu'il fallait jouer le choral en lisant le texte. Pour être vraiment dans le... Bien sûr que j'en joue. Par exemple, pendant le carême, « O Mensch bewein dein Sünde groß », ça, si vous voulez, quand on... Le jour du mercredi des cendres, par exemple, c'est le jour où presque chaque année je le joue, ce choral, parce qu'il y a « In dir ist Freude »,« En toi est la joie », etc. Il y a tous les sentiments humains qui sont traduits dans les chorales de Bach, bien sûr, mais pas que dans les chorales. Alors justement, les préludes des fugues, voilà, je prends le si mineur, par exemple, les tonalités ont une symbolique très forte, hein. Le si mineur, c'est le deuil, hein. C'est très très difficile. Mais le deuil chez Bach n'est jamais un deuil désespéré, hein. C'est le deuil vers l'espérance. Le mi bémol, c'est la trinité. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois bémols. Et le do mineur, c'est la trinité, mais dans la gravité, puisque c'est les trois bémols. Mais alors, le grand do mineur, par exemple, l'hypothèse de Gilles Cantagrel, c'est que ce prélude des fugues pourrait être tiré de l'ouverture d'une passion qui aurait été perdue. C'est dire l'intensité du do mineur. Donc, effectivement, il faut faire du solfège au sens le plus profond pour comprendre Bach et comprendre que derrière chacune des choses, il y a une symbolique très forte, qui va jusque dans les nombres, d'ailleurs. Hein. Mais vous savez, même la liturgie est truffée de nombres. 7 versets dans certaines prières, il y a des chiffres qui ont une signification. Le 3, évidemment. Le 4, c'est l'être humain. Donc, le 3 plus 4, ça fait 7. C'est l'humain associé au créateur, c'est-à-dire le chiffre de la perfection et de la création. 14, c'est Bach, c'est 2 fois 7. Alors, Bach, c'est très étonnant. Si vous prenez B-A-C-H, en numérotant les lettres, 2 pour B, 1 pour A, enfin, en numérotant les lettres dans l'alphabet, B-A-C-H, ça fait 14. Et Johann Sebastian, ça fait 41. Donc, il était féru, moi aussi, pour ne rien vous cacher, ce sont des choses qui sont absolument fascinantes, il était féru de ce nombre, de ce genre de choses. Et si vous allez voir dans la Passacaille, par exemple, ou dans d'autres, même dans le do mineur, d'ailleurs, il y a des chiffres qui sont cachés comme ça. Autre chose, il signait ses œuvres de manière en notes. Je prends l'exemple de la dernière fugue de l'art de la fugue, fugue qui n'est pas achevée d'ailleurs. Le dernier thème, c'est B-A-C-H. Et il ne termine pas cette fugue parce que je pense qu'il a laissé à l'éternité le soin. Peut-être il est en train de la terminer, cette fugue, vous voyez. Et ça me fait penser à un autre grand génie pour la peinture et la sculpture, hein, qui est Michel-Ange, qui ne signait jamais ses œuvres, sauf la Pietà. Si vous regardez la Pietà, sur le bandeau qu'elle a en travers, il y a Michelangelo. C'est la seule œuvre qu'il a vraiment signée, mais elle est inachevée. Alors la Pietà, sur le dessus du crâne, c'est encore de la pierre brute. Eh bien, il a fait exactement ce que Bach a fait avec l'art de la fugue. C'est-à-dire que son œuvre ultime, eh bien, il a jugé qu'il ne pouvait pas la terminer, mais il l'a signée. Il a signé pour dire, c'est moi, Johann Sebastian Bach, qui donne aux générations futures, ben voilà, les clés, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Donc je vous donne une clé, voilà, j'ouvre et personne ne fermera. C'est dans l'Apocalypse.
Merci Yves. Nous venons d'entendre l'orgue, qui est en symbiose avec l'art sacré, avec la messe, avec toutes les liturgies que l'on peut accompagner pour la mise en prière de l'Assemblée. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci Blandine.
C'était de Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.